Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Et comme chaque semaine, l'irremplaçable Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol.
Salut tout le monde.
À tes côtés Imanol, préparons une ovation pour le retour de deux piliers de cette émission, Marc Duzan et Jérémy Fada du Midi Olympique. Salut les gars.
Salut Olive, salut Imanol.
Salut. Ils reviennent frais, ils sortent de l'infirmerie.
Oui, c'est ça. Ils sont en pleine bourre. Pilier, évidemment, c'était une image, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment le gabarit. Messieurs, de quoi va-t-on parler cette semaine dans Arrêt Buffet? Eh bien, on va parler de la Champions Cup, puisque le top 14 fait relâche pour faire place à la Champions Cup et sa nouvelle formule. Et oui, vous le savez, on ne manque pas d'imagination dans le rugby. La Coupe d'Europe, c'est fini. Place à cette nouvelle compétition de clubs qui intègre désormais les franchises sud-africaines. Alors, selon vous, est-ce une bonne idée? Pourquoi un tel changement? Cela ne cache-t-il pas autre chose? On évoque notamment un championnat du monde des clubs pour très bientôt. Marc, tu étais à Londres la semaine dernière pour le lancement de cette épreuve. Tu nous donneras les dernières infos. Et puis, on va évidemment parler du sportif qui sont les favoris. Avec un top 14 plus resserré que jamais, toutes les équipes françaises vont-elles jouer le jeu? Pas si sûr. Et puis, dans cet arrêt buffet, on évoquera cette nouvelle officialisée mardi par la Fédération anglaise. Eddie Jones n'est plus le sélectionneur du 15 de la Rose. En poste depuis 7 ans, l'Australien très critiqué a fini par être débarqué après de nouveaux résultats décevants en novembre. À 2 mois du tournoi et à moins d'1 an de la Coupe du Monde, c'est quand même sacré pari. On analyse tout ça avec nos experts. Arrêt buffet, c'est parti. Clermont qui reçoit les Stormers du Cap, Lyon qui se déplace à Pretoria pour affronter les Bulls. Il va falloir s'y faire. Fini la Coupe d'Europe, c'est la nouvelle Champions Cup et elle démarre ce week-end avec les franchises sud-africaines. Il y en a 3 en Champions Cup, les Bulls, les Sharks, les Stormers et 2 en Challenge Cup. Alors un petit mot du format avant de vous laisser la main. Messieurs, Marc, tu me corrigeras si je me trompe. Il y a 24 équipes réparties en 2 poules de 12. Dans cette première phase, chaque club dispute 4 rencontres, 2 à l'extérieur et 2 à domicile. Il n'y a pas de match entre 2 équipes d'une même nation. Les 8 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 8e de finale. C'est un petit peu différent en Challenge Cup. Je vous passe les détails. Bon, Imanol, cette nouvelle formule, qu'est-ce que tu en penses de cette intégration des Sud-Africains? Bonne ou mauvaise idée?
Concernant la formule, déjà, elle est toujours aussi peu lisible et toujours aussi peu intéressante au niveau des phases de poule. C'est vrai que c'est une compétition à laquelle on commence à s'intéresser à partir des phases finales, donc à savoir les huitièmes, même les huitièmes, c'est vrai qu'on part d'un peu loin. Après l'intégration des franchises sud-africaines, ça c'est assez intéressant parce que voilà, il y a quand même trois très belles équipes, les Stormers, les Bulls et les Sharks qui composent la majorité de l'équipe sud-africaine, donc des joueurs internationaux de très haut niveau. Donc ça c'est intéressant pour les fans de rugby qui vont pouvoir voir un peu ces joueurs évoluer. C'est intéressant aussi pour les joueurs, voilà, ça mène un peu d'exotisme. Ils vont aller à l'Afrique du Sud. Ça va leur permettre d'affronter aussi voilà, des joueurs d'envergure internationale. Après, j'attends de voir, parce que moi, je n'étais pas forcément fan de voir débarquer les Sud-Africains, qui étaient quand même demandeurs d'intégrer cette compétition. Hein. Et pour moi, on perd un peu en identité, parce que c'était quand même avant tout la compétition du Nord, des meilleurs clubs du Nord, même si sur les dernières années, c'était souvent les mêmes. Voilà, bientôt ça va être une compétition mondiale. Je pense qu'on va voir un peu toutes les équipes. Je sais pas comment ça va finir, mais j'attends de voir un peu. L'année dernière aussi, on n'était pas favorable à la nouvelle formule. Finalement, il y a eu quand même de l'intérêt, donc on va voir cette année ce que ça va amener. Il faudrait pas que les Sud-Africains finissent dans les 3 meilleures équipes quoi, et qui bottent le cul à tout le monde aussi.
C'est ce qui s'est passé l'année dernière à United Rugby Championship. Les Sudaf ont intégré la compétition.
Alors, attends,
ils ont
marché sur United Rugby Championship, c'est la Ligue Celt. Hein.
Ah oui, exactement. La Ligue Celt qui est ensuite devenue Pro 12 et qui est ensuite devenue URC.
Ouais, peu importe, ils ont intégré la compétition. Il y a eu une finale Bulls Stormers, ils ont marché sur tout le monde et ils ont mis tout le monde d'accord.
Marc, toi, tu étais à Londres la semaine dernière pour le lancement officiel avec les capitaines. Quelle était l'ambiance là-bas? Quel est le discours pour justifier de cette nouvelle compétition, de cette intégration des Sud-Africains?
Écoute, pour avoir discuté avec les joueurs, ils sont plutôt excités par, cette, par l'arrivée des franchises sud-africaines. Et moi, je partage plutôt leurs attentes parce que, ouais, comme disait Emmanuel, depuis quelques années, cette Coupe d'Europe, elle ronronne, quoi. Avant les quarts de finale, tout le monde s'en cogne, les clubs anglais et leur masse salariale réduite à 6 millions d'euros contre 10 millions d'euros au club français, je le rappelle, ils sont rapidement largués dans la compétition. Au final, tu te retrouves avec des matchs dans le match entre les trois plus gros clubs français, Toulouse, La Rochelle, le Racing, et les deux provinces irlandaises, le Munster et le Leinster. Donc, l'arrivée des Sud-Africains, en ce sens, ils devraient bouffer d'oxygène. Lundi soir, je discutais avec Stuart Lancaster, l'entraîneur du Leinster et futur patron sportif du Racing. Il me disait que les Français et les Anglais ne sont pas du tout préparés à ce qu'ils vont vivre dans cette Champions Cup avec les Sud-Africains en termes de vitesse, en termes de dimension physique. Ça ressemblera à tout sauf à du top 14 ou du premier chiffre. Donc, ça va cogner, ça va frapper.
Jérémy, quand même, à l'heure de la sobriété, ça peut surprendre, hein, cette nouvelle compétition. Lyon, je le rappelle, est parti en début de semaine à Pretoria pour affronter les Bulls avant de revenir ensuite jouer la semaine prochaine à domicile face aux Saracens. Même physiquement, pour la récupération, tout ça, ça va pas être simple. Les Sud-Africains sont peut-être un petit peu mieux armés, justement, puisqu'ils ont eu l'expérience de cette participation à l'ancienne Ligue Celt pour enchaîner ces allers-retours.
Ouais, c'est évident, et c'est pour ça que certains clubs, quand on discutait, étaient un petit peu réticents au départ. Ils se demandaient comment digérer ces énormes déplacements, même au niveau du grand public, hein, à l'heure où on parle beaucoup de l'accumulation des matchs, de la multiplication des voyages, aller faire comprendre maintenant qu'on fasse rentrer des provinces qui se trouvent à 10 000 km de chez nous. Donc, il va falloir laisser sa chance au produit. Le PCR a tout mis en ordre, notamment sur le plan financier, pour prendre à ses frais quand même les déplacements. Il est vrai aussi qu'il y a une question, qu'on le veuille ou non, d'identité jusque-là, et même nous, hein, journalistes, on aime bien se référer qui a le plus gros palmarès dans la compétition. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à dire que Leinster et Toulouse se bataillent pour le plus grand nombre de titres?
Est-ce les étoiles, là, qu'est-ce que ça va devenir, ça?
Ben ouais, non, mais c'est plein de questions, je pense, qui vont se traduire dans les semaines et les mois à venir. Mais si ça se passe comment? Feu la Ligue Celt, si les Sud-Africains écrasent tout dès la première saison, je pense qu'on va vite abandonner l'idée de Coupe d'Europe, même dans les statistiques.
T'en parlais, Jérémy, le gros problème qui se pose, évidemment, c'est l'empreinte carbone que laisse cette compétition sur la planète, puisqu'on va multiplier les voyages transfrontaliers, les voyages entre deux hémisphères, quoi. Alors, on a posé la question aux dirigeants de PCR la semaine dernière lors du lancement de la compétition, ils ont gentiment botté en touche, ils ont dit qu'ils avaient créé une commission qui allait réfléchir là-dessus, sur cette problématique, calculer le bilan carbone à la fin de la compétition. Enfin, on n'a pas eu de réponse claire.
Ils ont calculé le bilan financier surtout.
On fait souvent le choix cynique du pognon.
Oui. Marc, d'ailleurs, dans ton article paru dans le Midi Olympique cette semaine, tu laisses entendre qu'on prépare le terrain à une Coupe du Monde des clubs, c'est ça, très rapidement, finalement.
Ah, ben bien sûr. D'ailleurs, là aussi, on a encore posé la question à Dominic McKay, qui est le patron écossais de l'EPCR, donc l'instance qui gère la compétition. Il nous a dit que les discussions s'intensifiaient ces dernières semaines concernant la Coupe du Monde des clubs, qui vont appeler la World Cup Champion, je crois. Pour être clair, a priori, coup d'envoi en 2024, elle aura lieu tous les 4 ans. La première fois, elle comprendra 16 clubs, donc les 8 qualifiés en quart de finale de Champions Cup, 3 provinces néo-zélandaises, 3 provinces australiennes, un invité japonais et un invité sud-américain, qui sera vraisemblablement les Jaguares. Donc tu vois, moi je trouve que ça a de la gueule, quoi. Et puis le rugby des clubs, il a vraiment besoin d'un second souffle. Alors bon,
mais ça prendrait la place tous les 4 ans de la Champions Cup, alors.
Oui, elle se calquerait, cette compétition, sur les dates PCA, sur les dates Coupe d'Europe.
D'accord. Ça, Emmanuel, tu serais plus favorable, finalement, à un championnat du monde des clubs? Toi, ça t'exciterait de...
Ah, mais en tant que joueur, c'est sûr que c'est assez incroyable. Maintenant, entre les intérêts de chaque ligue, les intérêts des joueurs, des équipes nationales, et tout ce qui s'ensuit, ça va être une sacrée usine à gaz.
Ouais, on n'en est pas là.
Bon,
on
va d'abord. Surtout s'il commence à y avoir des matchs reportés, des matchs à déplacer, comme c'est le cas chaque année. Hein. Oui. Je ne vois vraiment pas comment ils vont pouvoir s'organiser, parce qu'autant, quand on doit organiser un Bayonne-Pau, ça va. Mais s'il y a un match annulé en Nouvelle-Zélande, le temps d'y aller, de revenir, et de rebooker un déplacement à l'autre bout de la planète, ça va être très compliqué quand même.
Alors, pour simplifier la chose, ils auraient envisagé de centraliser la phase finale de cette Coupe du Monde des clubs
au même endroit.
Dans l'hémisphère nord, la première année, ce sera à Londres, visiblement, et de la mettre dans l'hémisphère sud 4 ans plus tard, tu vois, puisqu'elle aura lieu tous les 4 ans. Bon. Pour simplifier un peu le.
Ça, ce sera pour 2024. On va d'abord
2024, coup d'envoi, a priori. Ouais.
On va d'abord s'intéresser à cette nouvelle formule de la Champions Cup. On va parler quand même du sportif. Messieurs, vous l'avez rapidement évoqué avec ces franchises sud-africaines. C'est l'inconnu, évidemment, pour nous. Sur la ligne de départ, parmi les favoris, on retrouve les traditionnelles équipes, Toulouse, La Rochelle, le Racing, le Leinster, les Saracens. Voilà, pas de place aux surprises.
Ouais, enfin, et plus les Sud-Africains. Enfin, je regardais l'effectif des Sharks, par exemple, ce matin, avec Ebed Ezebet, Siya Kolisi. Je crois qu'ils ont Mampimpi aussi. Enfin, c'est dingue. Les Stormers aussi, c'est pareil, avec Franz Malherbe, Steven Kitchoff, Damian Villenze. Enfin, ouais, moi, ça va remplir les stades. Il y aura un vrai regain de curiosité par rapport à tous ces types-là qui nous ont quand même, franchement, concassés lors de la dernière tournée d'automne. Quoi. Je les mets dans les favoris.
C'est vrai, là où tu as raison, c'est que c'est un petit peu l'inconnu. Quoi. Nous, on voit ça d'un œil extérieur. C'est vrai que si on se réfère au dernier exemple qu'on a, et j'en reviens à l'URC l'année dernière, bon, ben, eux aussi, ils étaient dans l'inconnu. Ils ont vite compris quand même le niveau potentiel des franchises sud-africaines. Donc, ce sera sur le papier des candidats au titre. Pour le reste, Olive, oui, bah, j'allais te dire, comme chaque année, c'est ceux que tu as cités. Hein, voilà, le Leinster, c'est une machine sur la scène européenne. On le sait, La Rochelle aujourd'hui est taillée pour ça, Toulouse veut aller reprendre son titre, le Racing, depuis qu'ils ont été champions de France, en a fait son objectif prioritaire. Moi, je dirais qu'il y a un vrai gros point d'interrogation sur les gros clubs anglais. Quoi. Est-ce que les gros clubs anglais aujourd'hui sont capables d'aller concurrencer toutes les équipes qu'on a citées ? Sur un match, sur deux matchs, oui, parce que tu citais aussi les Saracens. On n'est quand même plus aux Saracens d'il y a 5-6 ans, Olive. Donc, le point d'interrogation, je le mettrai plus sur les Anglais aujourd'hui.
Est-ce que tous les clubs français, selon vous, vont jouer la compétition à fond ? Je le disais dans la présentation d'Arrêt Buffet. C'est vrai qu'avec ce top 14 plus resserré que jamais, est-ce que toutes les équipes françaises vont jouer le jeu ? Finalement, pas sûr, non ?
À chaque année, c'est un peu la même chose. Hein. Y a des clubs, forcément, pour qui c'est un objectif majeur. Je pense peut-être au Racing quand même parce que qui a échoué quand même sur la dernière marche 3 fois si je dis pas de bêtises. Mais ils sont toujours tributaires aussi de l'effectif, du nombre de blessés, de la priorité du championnat et du classement en championnat. Donc c'est toujours une compétition. L'avantage c'est qu'elle est rapide et on sait après deux matchs on sait ce qu'on peut espérer de cette compétition. Donc, une priorité pour les clubs, pour les gros clubs, oui. Maintenant, voilà, ils vont se calquer en fonction des résultats. Et si les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions, le focus se fera sur le championnat. Et il faudra tourner l'effectif pour faire jouer des jeunes joueurs et préserver des joueurs internationaux, des joueurs majeurs. Sachant en plus que voilà, comme vous le disiez, les Sud-Africains, ils vont pas venir pour faire de la figuration. Ça va être des prétendants au titre. Voilà, ils viennent vraiment pour gagner cette compétition. Il faudrait pas qu'ils fassent mal à tout le monde. Et puis quand on connaît le jeu du Sud-Africain, ça risque de cogner un peu. Il risque d'y avoir quelques joueurs blessés. Enfin, sans parler de violence, mais mais voilà, ça va rajouter en tout cas de l'intensité et du niveau à cette compétition.
Ouais, c'est exactement ce que disait, tu vois, lors de ce même lancement de la Coupe d'Europe à Londres, c'est exactement ce que disait Kirby Arenze, la nouvelle bombe du rugby sud-africain, l'ailier qui a tant brillé pendant la tournée d'automne. Il disait, on veut montrer au rugby européen ce qu'on vaut, on veut marquer notre territoire. Donc, ils ne viennent pas pour blaguer.
Pour revenir à ta question, Olivier, pour prendre des exemples concrets, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Bordeaux-Bègles ou Clermont, par exemple, ont intérêt d'aller lâcher trop d'énergie sur la scène européenne ? Bien sûr qu'ils voudront faire bonne figure, mais c'est des clubs qui sont en train quand même de cravacher pour revenir dans les 6 ou essayer d'être dans les 6 en top 14. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que la Champions Cup est leur objectif prioritaire. Et pour rebondir sur ce que disait Imanol sur la formule, l'avantage aussi d'avoir plus que 4 matchs de poule, c'est que quand on sait au bout de deux matchs qu'on n'a plus grand-chose à espérer, au moins le grand public n'a plus que deux matchs à voir d'équipe qui lâche. Avant, les six matchs, parfois, c'était un peu long, quoi, quand une équipe n'avait plus rien à jouer sur quatre matchs. Quoi.
Oui, je ne suis pas sûr que Montpellier, en effet, Bordeaux, Clermont, même Lyon, Castres, la jouent à fond cette compétition. Ils ont quand même comme priorité la qualification. Alors, ce week-end, quand même, il y a des affiches excitantes, hein, du côté des favoris français. Vous attendez quoi de ces matchs? Il va y avoir un drôle de match, d'ailleurs. Racing, tu l'as évoqué tout à l'heure, Marc. Racing Leinster, c'est rigolo, c'est quand même Stuart Lancaster qui est l'entraîneur de Leinster, qui affronte sa future équipe puisqu'il prendra les rênes du Racing. Il va y avoir un Munster Toulouse aussi dimanche, celui-là aussi il vaudra le coup. Puis il y aura La Rochelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils affrontent Northampton de leur côté. Quel match vous avez coché dans votre calendrier ce week-end?
Écoute, le Racing Leinster, revanche de la dernière finale de 2018, qui avait été perdu d'un cheveu par les Racingmen sur un drop manqué de Rémy Talès à la dernière minute. Il est quand même assez savoureux, ce match. Surtout que le cas Stuart Lancaster en lui-même est assez fascinant. Quoi. Stuart Lancaster et Laurent Travers, ils ont d'ailleurs décrété cette semaine, tu vois, ils échangent depuis trois mois, quasiment tous les jours, au sujet du recrutement, de la logistique, du plan de jeu du Racing pour la saison prochaine. Et cette semaine, par contre, ils ont décrété la politique de non-agression, zéro contact, zéro coup de fil, et chacun chez soi et Dieu pour tout.
Lancaster a plus parlé avec Marc Duzan qu'avec Laurent Travers cette semaine.
Ouais, d'accord. Un quart d'heure de plus, probablement.
Le Racing qui est en pleine forme. Hein. Ils en sont à 5 victoires consécutives en championnat, je crois. Ils sont,
exactement, 5 victoires consécutives. Un paquet devant, semble-t-il, retrouvé.
Ouais, impressionnant, en effet, sur la pelouse de Toulon. Jérémy, laisse-moi deviner, toi, tu vas parler de Toulouse, évidemment. Toulouse-Munster.
J'y serai, donc déjà, rien que mon programme personnel, il m'intéresse un petit peu plus. Alors, c'est un classique, mais avec quand même une énorme différence. C'est vrai que ces deux équipes se sont déjà affrontées et déjà en Irlande sur les deux dernières campagnes européennes. À chaque fois, Stade Toulousain est sorti vainqueur, un match exceptionnel, rappelez-vous, en 2021, où il passe 40 points à Thomond Park, mais un Thomond Park vide, huis clos, Covid à l'époque. Et l'année dernière, le quart final qui s'est fini sur la fameuse séance de tir au but où Toulouse s'est qualifié, mais délocalisé à l'Aviva Stadium de Dublin. Donc, il y a quand même une petite différence, c'est que ça sera à Thomond Park, mais un stade Thomond Park plein comme un œuf. Et franchement, moi, pour y avoir été déjà deux fois, s'il y a bien un stade où le fait qu'il y ait du public, ça compte, c'est bien là-bas. Parce que quand l'Armée Rouge se met en marche, ça a quand même une vraie influence sur les joueurs et sur le jeu.
Ouais, Toulouse qui affrontera le Munster et Sale lors de cette phase de poule. Thomond Park, Imanol, tu as joué toi là-bas, non?
Ah oui, oui. Là, c'est l'antre du... Comme disait Jérémy, c'est l'antre du rugby. On se sent tout petit. Il y a une vraie énergie. Il y a les supporters qui poussent vraiment très, très fort. Et quand on connaît le célèbre fighting spirit des Irlandais, là, il n'est que décuplé quand il joue là-bas. Voilà, c'est une vraie, très belle affiche d'ouverture, en tout cas, de compétition pour les Toulousains. Ils vont savoir de suite où ils en sont. Voilà, le Munster, une équipe qui est toujours très compliquée à manœuvrer, qui lâche jamais rien, même si ça s'était bien goupillé pour les Toulousains l'année dernière. Voilà, il va y avoir un contexte particulier, des Irlandais revanchards. Et puis les Irlandais là, du Munster, ils ont toujours cette faculté quand même à contrecarrer les plans un peu des Toulousains. Donc j'attends moi cette affiche avec impatience, même si forcément les autres affiches aussi, ça va être du très lourd. Avec aussi La Rochelle qui reçoit Northampton.
Ouais. Est-ce qu'on peut les appeler les tenants du titre, alors, les Rochelais?
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Pourquoi tu ne pourrais pas dire ça?
C'est une nouvelle compétition, il n'y a pas les mêmes équipes.
Ah.
C'est quand même difficile.
Ne va pas dire ça à Roland Nogara, qui va le fâcher encore.
Non.
C'est dommage.
Je sais qu'il a un caractère de cochon. Non. On embrasse d'ailleurs rapidement un mot de la Challenge Cup pour dire qu'il y aura quand même Toulon. Et le Stade français, parmi les deux équipes qui sont susceptibles de jouer cette épreuve à fond, Toulon qui était finaliste l'an passé. Dans le contexte actuel des Toulonnais, comme ça ne va pas très fort en ce moment en championnat, après cette nouvelle déculottée à domicile, la Challenge Cup, vous croyez qu'ils vont la jouer à fond?
Alors, en tout cas, elle a un intérêt parce qu'ils mettent plusieurs internationaux français au repos, mais d'après ce que notre correspondant sur place nous dit, on devrait peut-être voir la première de Dan Bigard. Donc, rien que pour ça, ça risque d'être intéressant parce que on se rend compte, je pense que Dan Bigard, quand même, ça va être une belle carte à abattre pour les Toulonnais d'ici la fin de saison. Et ils ont bien besoin d'un stratège quand on voit un petit peu les dernières sorties.
Emmanuel.
Moi, je crois que pour le Stade français, par exemple, ils vont attendre de voir comment ça se passe parce qu'ils sont, ils sont quand même euphoriques en ce moment. Deuxième du championnat, si je ne dis pas de…
Troisième.
Troisième, pardon Marco, du championnat. Donc, ouais, ils vont certainement faire tourner aussi.
Ils affrontent très vite hein, pour la première journée. Voilà.
Et aller chercher des points et puis voir un peu comment ça se passe. Je pense que leur priorité va quand même rester le championnat. Et puis concernant Toulon, vu les propos de Pierre Mignoni, je serais pas surpris qu'il redistribue quelques cartes ou en tout cas qu'il remette quelques joueurs en ballotage défavorable pour les remettre dans l'axe parce qu'il n'avait pas l'air content du comportement de certains. Donc c'est l'occasion aussi, c'est peut-être le bon moment voilà, à Toulon pour ramener un peu de remettre un peu d'oxygène dans le groupe.
Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur cette Coupe d'Europe, pardon, cette Champions Cup, cette Challenge Cup, nouvelle formule à retrouver ce week-end avec 5 franchises sud-africaines qui vont désormais participer à cette compétition. Ça démarre ce week-end. On est impatients de vivre ça. On en reparlera évidemment dans un prochain numéro.
Merci Olivier de ne pas m'avoir interrogé sur le change européen parce que j'avais absolument aucune envie sur ces confrontations qui ne m'intéressent guère, je l'avoue.
Oh là là, vous voyez comme des snobs.
Non, mais avant les quarts de finale, il n'a pas d'intérêt. Non, le change européen, franchement, avant les quarts, non.
Bon, mais on en parlera pour les. Tu veux dire que tu n'es pas passionné par ce Toulon Parme mais ce Stade français Trévise
et ce Pochitas? Non, j'ai du mal à me passionner pour ces matchs.
Attention, Emmanuel qui va taper sur les doigts. Pochitas, ça se regarde. Attention, ça se regarde à la télé.
Je vous invite à regarder le commentaire.
Ce sera chez nos confrères de France Télévisions. Allez, on va parler du rugby anglais maintenant, qui est en pleine crise. Ça, je suis sûr que ça fait plaisir à Emmanuel. Imanol, je suis sûr que cette nouvelle te bouleverse. Le rugby anglais va mal. Le rugby anglais est en pleine crise. Et ça, je sais que ça ne te fait pas plaisir. La fédération a décidé mardi de se séparer du sélectionneur du 15 de la Rose, Eddie Jones. La crise couvait depuis pas mal de temps déjà. L'Australien n'a pas survécu aux défaites à domicile en novembre face à l'Argentine et l'Afrique du Sud. Épilogue d'une année 2022 morose, marquée également par une troisième place dans le tournoi. Je rappelle qu'Eddie Jones était arrivé à la tête de cette sélection anglaise en 2015. Avec lui, les Anglais ont atteint la finale de la Coupe du Monde il y a 3 ans. Ils ont aussi remporté quand même 3 fois le tournoi des Six Nations. C'est quand même un gros risque, non, que prend la fédération à moins d'un an de la Coupe du Monde. Ça ne leur ressemble pas aux Anglais d'agir dans la précipitation, non?
Non, c'est ce que j'allais te dire, hein, c'est que ça leur ressemble vraiment pas, eux qui sont très pragmatiques, qui prévoient tout, le plan A, le plan B, le plan C, 10 ans avant, pour chaque Coupe du Monde, qui restent toujours dans le rang, contre vents et marées. Là, c'est un coup de tonnerre hein, de sacrifier comme ça, à même pas un an de la Coupe du Monde, le sélectionneur national, alors que son bilan est quand même très positif. Il y a peut-être des choses qui faisaient pressentir que l'avenir n'allait pas être meilleur du côté de la fédération anglaise. En tout cas, en termes de résultats, ça n'a pas été ça pendant la tournée. Ça n'a pas été ça non plus sur le contenu pendant le tournoi. On ne sent pas des joueurs, en tout cas, reprendre le leadership qu'ils avaient pu prendre après la Coupe du Monde 2019. On a senti des joueurs qui étaient jeunes, mais on sentait qu'il y avait un groupe fort, expérimenté, qui était en train de naître. Mais le soufflet est retombé. Eddie Jones, il a eu du mal à insuffler, en tout cas, de l'énergie à son groupe. Et je lisais dernièrement que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lit ses déclarations, alors je ne sais pas comment il est en interne, mais on avait un peu l'impression qu'il y avait une crainte un peu autour de lui. Et moi, je n'ai pas senti en tout cas des joueurs en sélection libérés et pleins d'enthousiasme.
Moi, la fédération anglaise, je la trouve assez sévère avec Eddie Jones quand même. C'est Eddie Jones, c'est trois tournois de destination remportés, dont un grand chelem, une finale de Coupe du Monde. Enfin, c'est 73% de victoire, je crois. C'est pas rien quoi. Il faut dire que Jones, il est quand même pas aidé par une génération exceptionnelle. Il a pas, c'est pas la génération Antoine Dupont qu'il a avec lui aujourd'hui.
Attends, t'es dur, il y a quand même du matériel.
Oui, il y a du matériel, mais c'est t'échangerais toi l'équipe d'Angleterre actuelle avec celle de l'équipe de France? Moi, jamais.
Non, jamais. Non.
Donc, ouais, je je trouve tout ça assez sévère. Et puis, ce qui me chagrine le plus, en fait, c'est qu'il ait été traîné dans la boue par deux mecs, Clive Woodward et Mike Brown, respectivement ancien sélectionneur national de l'Angleterre et ancien arrière de l'équipe d'Angleterre, qui me semble pas vraiment légitime. Clive Woodward, il n'a pas entraîné depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il connaît au rugby international actuel, Clive Woodward? Rien, pas plus que toi et moi réunis, Olivier Canton, enfin, je crois. Et Mike Brown, c'est une vengeance personnelle parce que Mike Brown,
il lui reproche d'avoir instauré un climat de terreur dans cette équipe.
Ouais, enfin, Mike Brown,
il est sorti de l'équipe nationale aussi.
Il lui reproche surtout que Kenny Jones les virait après qu'il se soit battu avec Ben Théo lors de l'entraînement, quoi. Enfin, voilà, ça a tout une raison subjective d'en vouloir à Eddie Jones, quoi. Enfin, il a été traîné dans la boue, je trouve ça un peu dur. Maintenant que Eddie Jones soit usant, qu'il fatigue, qu'il soit toujours sur leur dos, ça peut aussi se comprendre. Ils ne sont pas un peu fragiles, nos amis anglais.
Matt Guiteau a critiqué cette décision, hein, déclarant sur les réseaux sociaux, je cite, « Si Eddie Jones était limogé, ce serait la chose la plus stupide qu'il pourrait faire à l'équipe anglaise. Il planifie et planifie des années à l'avance cette Coupe du Monde. C'est la seule compétition où il a toujours eu raison. C'est une grosse erreur. »
Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec Matt Guiteau. Alors, soit il y a des éléments qu'on n'a pas en main et qu'on ne maîtrise pas, sûrement peut-être, qui émanent du groupe, j'en sais rien. Mais sinon, regardez Eddie Jones. Alors, son bilan avec l'Angleterre, vous en avez parlé tous les trois. Bon, il n'y a rien à dire. Il a aussi quand même co-battu le record de victoires d'affilée, 17 quand même, à son arrivée à la tête de la sélection. Et quand même, quoi, si on regarde les dernières Coupes du Monde, que ce soit avec le Japon quand même, il les a amenés en 2015 à battre l'Afrique du Sud parce qu'il avait planifié, préparé cette équipe jusqu'à cette compétition. 2019 avec l'Angleterre, ils sont vice-champions du monde, pas grand-chose à dire, ils éliminent la Nouvelle-Zélande au terme d'une demi-finale sublime. Et moi, je crois qu'Eddie Jones, il a surtout été victime, en tout cas l'équipe nationale a été victime de tout ce qui est arrivé au rugby anglais ces dernières années. L'équipe nationale était à composer au moins la moitié de joueurs des Saracens. Cette descente aux enfers des Saracens, bon, pour avoir triché financièrement, mais elle a eu des répercussions terribles aussi pour l'équipe nationale. Ces derniers mois, on sait ce qui se passe avec les Wasps, avec Worcester. Le rugby anglais est en crise et logiquement, l'équipe nationale en paye les pots cassés. Et visiblement, là, c'est Eddie Jones qui trinque. Mais à 10 mois de la Coupe du Monde, je trouve ça un petit peu aventureux quand même.
Parce que c'est vrai que l'histoire d'Eddie Jones avec la Coupe du Monde, elle est assez dingue. Hein. En 2003, il est sélectionneur de l'Australie, ils font une finale. En 2007, il est l'adjoint de Jack White avec les Springboks, il est champion du monde. En 2015, il entraîne les Japonais avec le succès que l'on sait. En 2019, il fait une finale de Coupe du Monde avec les Anglais. Donc, il sait quand même les jouer, les Coupes du Monde.
Et puis, on rappelle qu'ils sortent quand même d'une tournée en Australie, même si le niveau de jeu n'a pas été époustouflant. Ils ont gagné la tournée dans l'hémisphère sud cet été. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour nous, ça, parce qu'ils vont être remontés comme des coucous, non, pour nous recevoir dans le tournoi. Est-ce que ça va vraiment affaiblir cette équipe, tu crois, toi, Emmanuel?
Le fait de changer c'est, comme ça.
On ne connaît pas le nom du successeur, pour l'instant.
Oui, il parle de... Il y a beaucoup de lobbying, je pense, aussi derrière tout ça. Je pense qu'il y en a qui voulaient la place.
On parle de Steve Borthwick. Hein,
ouais, donc je pense qu'il y a beaucoup de lobbying derrière cette éviction. Après, le tournoi, il va arriver très vite. C'est quand même compliqué, en si peu de temps, de préparer un groupe, de repartir sur peut-être une nouvelle formule de jeu, une nouvelle formule d'entraînement, retrouver de la cohésion, un collectif qui a de la confiance en lui, des joueurs qui se connaissent. Enfin, bon, y a beaucoup de paramètres là qui vont faire que ça risque d'être à double tranchant. Après, pour jouer les Français, ils sont toujours prêts, les Anglais, ils n'ont besoin de rien. Mais sur le tournoi, je ne sais pas. J'ai mis quand même un gros bémol et je rejoins Marco. Pour moi, un an de la Coupe du Monde, je ne sais vraiment pas si c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour les Anglais parce que je pense que c'est un spécialiste des Coupes du Monde et qu'il sait bien les préparer. Et puis après, voilà, pour le remplacer, on ne parle pas non plus de... Il n'y a pas des profils qui ont gagné 50 Coupes du Monde derrière. Donc, plutôt des profils qui n'ont pas d'expérience au niveau international ou peu. Donc,
Ça veut dire quoi? Alors que l'Angleterre, pour la Coupe du Monde, on ne peut plus placer cette équipe parmi les nations favorites de la compétition. En 8 mois, ils ne peuvent pas se refaire.
On est quand même bien placé en France pour savoir que ce genre d'électrochoc, parfois, ça peut marcher. Quoi. Enfin, Emmanuel est mieux placé que moi pour le dire, mais en 2011, ils finissent sans marquer un roman pour se hisser jusqu'à la finale. En 1999, Villepreux et Scrella avaient laissé les clés du camion à Galtier-Pelouse et Agnès, enfin, ça peut marcher, ce genre
oui, mais c'est très français. Commando. Oui, mais ça marche avec les Français.
Oui, c'est vrai.
Les Anglo-Saxons, je ne suis pas sûr.
C'est vrai.
Il y a quand même une nouvelle génération qui pointe le bout de son nez. Eddie Jones, il avait donné les clés du camion à Marcus Smith en 10. Il y a Stewart qui est très bon en 15. Mercer qui régale avec Montpellier et qui sera disponible pour jouer la Coupe du Monde. Il y a quand même des talents, attention. Et après, là où je rejoins Emmanuel, c'est qui tout double. Ça me rappelle, vous savez, on faisait des émissions là, avant les phases finales top 14 l'an dernier, toute l'affaire Urios à Bordeaux. On disait c'est qui tout double. Tu peux, sur genre d'électrochoc, tu peux aller au bout derrière. Tu peux aussi t'écrouler, attention.
Ouais. Ils ont qu'à appeler Emmanuel, tiens, tu pourrais prendre les rênes de cette équipe, toi.
Ouais, c'est une bonne nouvelle pour la France, par contre, parce qu'il ferait exprès de mettre des bâtons dans les roues. Là.
Et tu vois, mais c'est marrant, enfin, vous allez dire que je me la raconte, mais c'est marrant, il a dû y croire jusqu'au bout, Eddie Jones, parce que vendredi matin, il m'a envoyé un email pour avoir les coordonnées de Marc Dalmazo. Et Marc Dalmazo m'a rappelé dans la foulée, il lui proposait, tu vois, le job de consultant pour la mêlée jusqu'à la Coupe du Monde, parce qu'il voyait que sa mêlée était en souffrance et il pensait que c'était une façon de sauver son poste. Et je crois que deux jours après, il a eu le rendez-vous avec les dirigeants de la RFU et il s'est fait trancher la tête. Mais ouais, il y a cru jusqu'au bout. Ouais.
Mais c'est vrai que tu te l'as raconté. J'ai vu Stuart Lancaster, et Stuart Lancaster m'a dit ça, et Eddie Jones qui m'envoie des mails. Ça va, bien.
Ah. Marco, on n'a pas fini de l'annoncer en France hein, maintenant. Hein. Eddie Jones sur le marché.
Oui.
Il va avoir des papiers dans le middle.
Ah bah tiens, il va être le premier content de les lire, hein, tu sais.
Bah, il va aller où? À Bordeaux, tiens. Voilà, c'est pas une bonne destination.
Ou à Montpellier, va savoir.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, voilà ce qu'on pourrait.
On aura appris que Marco est l'agent officiel d'Eddie Jones sur le marché.
En 12%, français. 12%, je crois.
Allez, ben voilà qui met fin à ce numéro d'Arrêt Buffet sur cette crise dans le rugby anglais. Donc, on rappelle que l'Angleterre recevra la France hein, dans le tournoi. Ce sera dans un petit peu plus de 2 mois maintenant. Ben, merci, messieurs.
On va passer un bon moment. Merci, les gars.
Ah, quand il s'agit de casser du sucre sur le dos de nos amis anglais, hein, ça passe toujours du bon. Marco, la semaine prochaine, tu nous parles de qui? De ta rencontre avec qui? C'est quoi au programme? Quel superstar? Non? Personne? Bon, allez, salut à tous, les gars.
Ciao, ciao.
Ciao. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.